Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Et nous parlons Europe ici à Bruxelles tout au long de cette matinale spéciale consacrée à l'Europe dans ce Parlement européen où nous avons croisé Thibaut Guignard, maire de Pleuc-l'Hermitage, président de la Fédération européenne des territoires ruraux qui est venu jusqu'au micro du studio. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
Alors Thibaut Guignard, vous m'avez dit à l'oreille que vous étiez actuellement au Comité européen des régions. Alors qu'est-ce que le Comité européen des régions ?
Alors le Comité européen des régions, c'est une instance qui est sans doute pas suffisamment connue. C'est une assemblée d'élus locaux qui siègent à Bruxelles pour donner des avis sur les textes qui sont ensuite présentés au Parlement européen. Donc ce sont 329 élus des 27 États membres, maires, conseillers départementaux pour la France, conseillers régionaux, qui se retrouvent à Bruxelles et qui étudient les textes qui sont soumis au Parlement européen, qui émettent un avis qui est repris ensuite par le Parlement européen, ou qui décide de se saisir de certains sujets pour écrire et présenter ce qu'on appelle des rapports d'initiative. À titre d'exemple, en cette fin d'année, je déposerai un rapport d'initiative sur la place du développement rural dans les politiques européennes.
Alors, le développement rural, on est en plein dans les territoires. Alors, il en est question ici au Parlement européen des territoires. Alors, des grands territoires que sont les pays, les États, et puis des petits territoires, et là, rien de péjoratif, que sont les communes, que sont les préfectures, etc. Est-ce que l'Europe devient de plus en plus une Europe des territoires ?
L'Europe devient une Europe des territoires, effectivement, et notamment après les crises sanitaires qu'on a pu connaître, qui ont montré que les solutions venaient du local, les solutions venaient du terrain, même si bien évidemment on a besoin de l'Union européenne pour toute la partie protection sanitaire, recherche, achat de vaccins, etc. Et donc l'Union européenne est historiquement tournée vers les régions, elle laisse beaucoup de place aux régions, notamment à travers sa politique de cohésion régionale, mais de plus en plus, il y a cette place donnée aux échelons municipaux, notamment pour les communes et les villes, que l'on retrouve notamment au sein du Comité européen des régions, au sein des 329 élus qui siègent à Bruxelles.
Alors 329 élus, on le voit des fois, les États à 27 ont du mal à se mettre d'accord sur nombre de sujets. Alors on ne va pas les évoquer ici parce qu'il y en aurait beaucoup et on devrait prendre sans doute un peu plus de temps à l'antenne. Mais comment faire entendre plus de 300, s'entendre en tout cas plus de 300 élus européens dans leur diversité culturelle et territoriale ?
Vous savez, quand on parle des territoires, finalement, la plupart des avis sont adoptés à l'unanimité. Tout simplement parce qu'il y a des enjeux communs. Bien sûr, il y a des spécificités entre le sud du Portugal et le nord de la Suède, les outre-mer françaises ou les outre-mer portugaises. Il y a des spécificités, mais pour autant, il y a des grands sujets qui nous rassemblent. Et avancer à 27, ce n'est pas simple, il faut l'avouer. Mmh. Mais avancer tout seul, ça permet sans doute d'aller plus vite. Mais avancer ensemble, ça permet d'aller plus loin. C'est un dicton africain. Et donc, ce travail à 27, il demande du temps, il demande des allers-retours, mais il faut quand même voir à quel point ça nous porte et ça nous aide, puisque rappelons que l'Union européenne est la seule union de pays qui s'est construite par la paix et pour la paix. Alors oui, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus complexe et plus long d'avancer à 27 que d'avancer tout seul, mais c'est beaucoup plus efficace.
Alors quand on se promène dans les couloirs ici, et il y en a beaucoup, oui. Au Parlement européen, on s'y perd des fois. Je connais un réalisateur, mon réalisateur Frédéric Guillon, qui s'est perdu. On l'a retrouvé, hein, je vous rassure, ami auditeur, tout va bien. Il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de discussions. On voit aussi que les discussions se font un petit peu comme ça, au débotté, dans les couloirs. On croise un élu grec qui parle avec un élu français. Et est-ce que c'est, j'allais presque dire, pré-discussion aide aussi à une meilleure compréhension, à une meilleure entente entre les différentes mentalités, les différentes visions des choses, finalement ?
ici au Parlement européen ou au Comité européen des régions, juste derrière la passerelle qui donne accès à d'autres couloirs. nous sommes, c'est vrai, nombreux dans l'hémicycle et donc les débats sont très organisés, sont très minutés. Ça permet à tout le monde de s'exprimer, mais on n'a pas une liberté de parole comme ça peut être en termes de temps, je veux dire. On est totalement libre de sa parole, mais on n'a pas autant de temps de parole que ça peut être le cas dans d'autres instances parce qu'il faut organiser les débats et il faut permettre aux traducteurs de traduire dans les différentes langues, etc. Donc effectivement, il y a toutes ces discussions dans les couloirs, dans les réunions, à l'heure du déjeuner, en passant souvent par l'anglais, mais aussi beaucoup par le français.
J'ai été très surpris d'ailleurs.
On a encore des pays en Europe qui sont attachés à la francophonie, des élus qui sont francophones, francophiles, et qui prennent plaisir justement lorsqu'ils discutent avec un représentant français à ne pas passer par l'anglais, mais à passer par le français. Néanmoins, si on veut vraiment pouvoir discuter avec tout le monde, avec toutes les générations, toutes les nationalités, malheureusement, il faut passer par cet anglais bruxellois qui n'est pas l'anglais de Shakespeare, mais qui est un anglais bruxellois qui permet à tout le monde de se comprendre.
Voilà, je l'ai testé, c'est assez surprenant hein, quand on n'a pas l'habitude au départ. On voit une Europe aujourd'hui très chahutée. On en avait parlé lorsque vous étiez venu en fin d'année dernière au micro de la matinale. On a une Europe qui est très chahutée avec cette guerre en Ukraine. Presque un an de guerre, elle est sur toutes les lèvres, cette guerre. Et pourtant, on a l'impression qu'elle est très loin, que l'Europe est une forme de cocon. En tout cas, ici, au Parlement européen.
Alors moi, je dis toujours que la guerre est en Europe. Elle n'est pas dans l'Union européenne, mais la guerre est en Europe, sur le continent européen, avec un pays ami, frère, candidat à l'entrée dans l'Union européenne, qui est agressé par la Fédération de Russie. Donc, vu d'ici, ça peut paraître loin, même si nous avons un certain nombre de conséquences de la guerre. Hein. Je pense notamment aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Pour autant, cette guerre, malheureusement, ou heureusement, mais il faut toujours essayer de trouver quelque chose de bon dans le malheur, mais a permis à l'Union européenne de gagner 25 ans de maturité. C'est-à-dire qu'en quelques semaines seulement, en quelques jours seulement, les chefs d'État ont été capables de se mettre d'accord sur la conduite à tenir face à la Russie de Vladimir Poutine, à l'aide à apporter à l'Ukraine. Et donc l'Union européenne a franchi un cap en termes de politique étrangère. Paradoxalement, l'agression de l'Ukraine par la Russie a réveillé l'OTAN, qui était en situation de mort cérébrale, comme disait le président de la République, ressoudé et a donné de la maturité politique à l'Union européenne.
Alors, cette maturité politique, elle s'exprime aussi au niveau des territoires, parce qu'on voit, là aussi, il m'a été donné de croiser des élus italiens qui étaient très préoccupés par, justement, cette situation en Europe, en disant, il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on arrive à convaincre nos camarades, ça a été le terme employé, je pense pas qu'il y avait une connotation politique particulière, mais nos camarades de faire plus encore. Est-ce que, là aussi, la discussion, un petit peu en dehors de tout le décorum qu'il y a ici, est porteuse d'espoir pour pouvoir faire avancer les choses aussi, et de solutions.
Quand on parle de territoire, on parle de quoi ? On parle des paysages, mais on parle avant des hommes et des femmes qui font ces territoires, qui vivent dans les territoires. Et donc si on veut ancrer l'Union européenne auprès de nos concitoyens, il faut que l'on ancre l'Union européenne dans les territoires. Et moi, j'ai toujours beaucoup de peine quand j'entends dire l'Europe, c'est loin, l'Europe, c'est Bruxelles, l'Europe, c'est technocratique.
On a entendu beaucoup ici, même dans les couloirs. Hein, parfois, on a des gens qui visitent, qui disent « Ah oui, mais alors l'Europe, on ne sait pas trop. C'est beau, c'est grand ici, le Parlement européen. Mais qu'est-ce qu'on y fait ?»
Non, mais au Parlement européen, il y a un pouvoir parlementaire de représentation du peuple et à la Commission européenne, il y a un pouvoir administratif et qui est dans son rôle lorsque la Commission propose, en rappelant que la Commission ne décide de rien ou de presque rien. Elle propose et c'est ensuite le Parlement européen et le Conseil qui décident. Donc si on veut ancrer davantage l'Europe auprès de nos concitoyens, il faut l'ancrer davantage dans les territoires et donc il faut la rendre plus visible. Pour ça, il faut sans doute simplifier un certain nombre de dispositifs et permettre que toutes les communes, quelle que soit leur strate, puissent bénéficier des opportunités européennes. C'est-à-dire que vous avez des programmes qui sont assez simples d'accès, je pense notamment à Leader ou au FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Vous avez d'autres programmes qui sont plus complexes, qui sont réservés aux grandes villes ou aux agglomérations, celles qui ont de l'intelligence, de la matière grise en interne pour remplir les dossiers, etc. Je crois qu'il faut que l'Europe aille encore davantage dans les territoires. Regardons qui a voté le Brexit. Ce n'est pas la City à Londres, hein, ce sont les territoires ruraux. Regardons les enquêtes d'opinion, regardons les résultats des élections européennes dans les différents pays membres. Lorsqu'il y a un petit peu de scepticisme, eh bien, cela vient souvent des territoires ruraux qui se sentent à tort ou partiellement à raison un peu délaissés. Mais notons quand même qu'avec l'échec du Brexit, à la fois pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne, Michel Barnier disait que ce serait un accord perdant-perdant. Et il avait vu juste. Avec l'échec du Brexit, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de partis en Europe, quel que soit leur positionnement politique, qui prônent une sortie de leur pays de l'Union européenne. Et même en France, ceux qui auraient pu défendre un Frexit, aujourd'hui ne le défendent plus. Ils défendent peut-être une autre Europe, un autre mode de fonctionnement. Et c'est tout à fait légitime. Le débat politique est là pour ça. On peut améliorer notre Union européenne. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de sortie de l'Union européenne. Et c'est une bonne chose.
Pour avoir croisé des Italiens avec le gouvernement italien actuellement en place, qui n'était pas forcément au départ un gouvernement pro-européen, ben finalement, on s'aperçoit que si, que l'Italie n'a pas de velléité de quitter l'Europe. Voilà. L'Europe politique, c'est une chose. Le scepticisme européen en est une autre. On croit souvent des gens qui sont vraiment fondamentalement anti-européens. Est-ce que vous avez... Vous, Thibaut Guignard, la capacité d'essayer d'expliquer à ces gens-là qui font fausse route que finalement l'Europe, c'est pas le grand Satan.
Mais moi, je pense que c'est un manque de pédagogie de la part de l'Union européenne. C'est un manque d'éducation civique et citoyenne chez nos jeunes. Et puis, c'est aussi une part de responsabilité de nos élus nationaux qui, lorsque quelque chose ne va pas, disent « c'est la faute de l'Europe ». Et lorsqu'il y a une directive qui s'applique, se cache derrière l'Union européenne en disant « on est obligé de prendre des mesures difficiles parce que la directive s'applique ». Oui, sauf que cette directive, une fois de plus, elle n'a pas été pensée et pondue par la Commission. Elle a été travaillée par la Commission, le Conseil avec les chefs d'État ou l'ensemble des ministres, et puis le Parlement européen. Donc ça veut dire qu'à un moment, l'État membre a accepté le principe de cette directive. Donc ensuite, une fois qu'on a accepté des principes, il faut les appliquer. Donc je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie. Il faut aussi se dire que parfois, quand ça ne va pas, c'est pas la faute uniquement de l'Union européenne, mais c'est aussi la faute de l'État membre dont on dépend, quel qu'il soit. Et puis, il faut, je pense... aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il y a des sujets sur lesquels il faut que l'Union européenne aille plus loin, peut-être d'autres sujets où il faut que l'Union européenne s'en mêle moins. Mais ça, c'est du débat politique sain et naturel. Si on est d'accord sur un fondamental qui est de dire « à 27, on sera plus fort que tout seul », eh bien, après, on débat. On débat de comment ça s'articule, de comment on prend les décisions, de comment on le finance. Mais le principe, c'est de rester ensemble. Parce que tout seul, sur la scène mondiale, face à la Covid, pour trouver des vaccins, tout seul sur la scène mondiale, face à la Russie de Vladimir Poutine, pour essayer de l'arrêter à la frontière ukrainienne, on aurait beaucoup de mal. Et pareil, en termes de régulation, de marché au niveau mondial, on a cet ensemble d'États... Qui fonctionne, qui a des valeurs communes. D'ailleurs, c'est aussi ça que Vladimir Poutine veut détruire. C'est les valeurs que nous représentons de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est...
Il pointe d'ailleurs du doigt l'Europe.
L'Occident.
L'Occident, plus largement. Mais lorsque l'on entend, lorsque les images des chaînes de télévision russes officielles nous parviennent ici en France, ou ici d'ailleurs au Parlement à Bruxelles, on s'aperçoit quand même que l'Europe est vraiment vilipendée et pour ne pas dire autre chose, par le pouvoir de Vladimir Poutine.
Et tout à fait. Et qu'est-ce qui le dérange ? C'est sans doute notre puissance économique à 27, mais c'est aussi les valeurs que nous défendons. Ce sont les valeurs de démocratie, d'état de droit, d'égalité femmes-hommes, de liberté de la presse. Parlons-en ici, dans ce studio à Bruxelles. Mais
voilà, on pourrait faire un petit clin d'œil à nos confrères d'Écho de Moscou, hein, qui était la radio qui a été fermée d'ailleurs par Vladimir Poutine, qui s'expriment toujours aujourd'hui sur leur chaîne YouTube, sur le web, pour donner des informations qui ne sont pas forcément celles des canaux officiels. Voilà, on pouvait leur faire un petit clin d'œil.
Mais ça, c'est un socle de valeurs qui ne plaît pas à Vladimir Poutine, mais qui ne plaît pas non plus à la Chine, qui ne plaît pas non plus à certains régimes islamistes. Moi, je pense qu'il faut continuer à le défendre. On ne peut pas imposer un modèle. Parfois, la France a essayé de le faire, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas imposer un modèle, mais on peut aider les autres à progresser dans le sens qui nous paraît le meilleur.
Alors, il nous reste quelques minutes. Allez, je regarde vers notre réalisateur qui me fait signe qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, en deux mots, on parle de la guerre en Europe, cette guerre en Ukraine. Est-ce que demain, on peut imaginer, par exemple, une armée européenne ? On en parle beaucoup.
Il va falloir que l'Europe de la défense se concrétise. On voit bien que nous ne sommes plus à l'abri d'attaques extérieures. Certains pays qui pensaient pouvoir rester neutres, et notamment à l'extérieur de l'OTAN, ont fait des demandes d'intégration accélérée à l'OTAN. Donc oui, il faut une défense européenne. Oui, il faut être capable de résister, notamment à l'est de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que... on va arrêter les choses avec la Russie très facilement. Mmh. J'espère que la guerre en Ukraine va s'arrêter, que les massacres de civils vont s'arrêter. Mais pour autant, il y aura toujours des lignes de tension en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie. Et donc, on doit pouvoir avoir une Europe de la défense. On a fait l'Europe de la paix. Mais en fait, la paix, elle passe par la défense. La défense, c'est pas la guerre. La défense, c'est la paix.
Thibaut Guignard, vraiment, une toute dernière question. Aujourd'hui, on a un monde en pleine mutation. Là aussi, ça nous renvoie à la guerre en Ukraine, mais plus largement, on voit les tensions à Taïwan avec la Chine, on voit la tension entre les États-Unis et la Chine aussi. Et l'Europe, le continent européen, un petit peu au milieu de tout ça. Est-ce que l'Europe va devoir se renforcer d'un point de vue géopolitique dans les années, dans les dizaines d'années qui viennent ?
Mais l'Europe est forte d'un point de vue géopolitique lorsqu'elle parle d'une même voix, et notamment lorsqu'elle se range derrière le couple franco-allemand. Elle est forte, mais cette voix, il faut continuer à la porter au sein de l'OTAN, parce que nous avons besoin de nos alliés américains. Il faut continuer à la porter en Fédération de Russie, il faut continuer à la porter en Chine, il faut aussi continuer à la porter en Afrique, qui justement est en train de subir une colonisation économique par la Chine. Et donc l'Europe est forte. L'Europe doit parler d'une même voix. Et l'Europe, justement, a cette singularité d'avoir une union de pays solidaires, mais qui sont unis par leur volonté, et non pas par des guerres passées ou par un régime totalitaire.
C'est là-dessus que l'on va devoir conclure. Thibaut Guignard, merci d'être venu dans ce studio qui n'est pas le studio habituel de la matinale, mais on s'y fait. Finalement, on est très bien reçu. Baptiste à la technique, Frédéric Guillon veillait également derrière la console. Thibaut Guignard, je rappelle que vous êtes maire de Pleuc-l'Hermitage dans les Côtes d'Armor, président de la Fédération européenne des territoires ruraux et l'ARD. J'ai un petit peu de mal avec les acronymes, mais je le dis quand même. Et je vous laisse retourner au comité européen des régions où vous avez des travaux en cours, et je vous laisse donc passer la passerelle puisqu'elle est tout près de nous là. Voilà,
merci beaucoup,
merci,
très bonne
beaucoup.
Journée
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.